Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Elle évoque une annonce brutale après la suppression annoncée de 1600 postes dans son ministère. Roxana Maracineanu au sport a rendez-vous à Matignon ce matin pour trouver des solutions face à cette coupe budgétaire. Une coupe qui pourrait avoir un impact non négligeable sur la pratique du sport par les Français, nous expliquera un économiste. Dans ce journal encore, nous reviendrons sur les leçons tirées du Dieselgate. C'était il y a 3 ans. En Allemagne, un premier procès s'ouvre contre Volkswagen aujourd'hui. Et puis, la difficile visite du président serbe au Kosovo. Hier, il s'est heurté à des contestations alors que se négocie en ce moment le statut final du territoire kosovar. L'ancienne nageuse est-elle déjà frondeuse? Roxana Maracineanu, la nouvelle ministre des Sports, a dénoncé hier la suppression brutale de 1600 postes, soit la moitié du ministère des Sports. Cette décision est décrite dans un document budgétaire, ce qu'on appelle une lettre plafond, qui a été diffusée dans la presse vendredi. Et quand Matignon tente déjà de déminer, la droite torpille, elle, cette sortie de la toute nouvelle ministre Yannick Falt.
À peine nommé, déjà rebelle, pour l'opposition, l'occasion était trop belle. Un ancien ministre ironise, le nouveau monde est un monde de gens nouveaux, nouvelle illustration de l'inexpérience politique, inexpérience et incohérence, complète le juppéiste Maël de Calan.
C'est complètement irresponsable, c'est parce qu'on tient ce discours depuis 40 ans, qu'on a le plus grand nombre de fonctionnaires en Europe rapporté au nombre d'habitants. Si la ministre des Sports n'a pas compris que la réduction de la dépense, elle était indispensable pour relancer la France et vaincre le chômage de masse, elle est passée quand même à côté du principal problème économique qui se pose au pays, et puis elle est passée aussi à côté du programme d'Emmanuel Macron.
Matignon, de son côté, relativise. Ce que dénonce la ministre, c'est la brutalité de la publication, pas le contenu de la lettre plafond, veut croire un conseiller d'Edouard Philippe. On est furieux aussi, faire sortir ce document interne est malveillant pour la garde rapprochée du Premier ministre qui argumente « Roxana Maracineanu hérite de la situation ». Elle aurait dû avoir plusieurs jours pour en prendre connaissance. Matignon en opération déminage donc. Sur le fond aussi, on n'y va pas à la SERP, c'est une meilleure organisation, une déconcentration. Le haut niveau vers les fédérations, le sport amateur vers les collectivités territoriales, une déconcentration qui mérite tout de même force explication. Édouard Philippe a reçu la ministre vendredi, il s'entretient à nouveau avec elle ce matin.
Le rendez-vous est effectivement prévu à 10h30 à Matignon. 1600 postes en moins donc d'ici 2022, cela touchera principalement les conseillers techniques sportifs. Et donc le sport amateur. Pour l'économiste du sport Pierre Rondeau, cette décision est problématique, d'autant que le système fonctionne idéalement aujourd'hui, selon lui.
Nous sommes quand même la 5e nation au tableau des médailles olympiques aux dernières Olympiades. Nous avons une réputation, et je ne mets pas uniquement le football en avant, mais une réputation extrêmement importante et extrêmement élogieuse au niveau de la formation des sportives et des sportifs. On ne cesse, dans toutes les grandes compétitions sportives, à drainer de nombreuses médailles, natation, judo, karaté, escalade, rugby. Donc c'est un système qui fonctionne, qui est certes financé en partie par l'État ou en grande partie par l'État, mais c'est aussi un élément qui permet à ce que l'ensemble des Françaises et des Français aient accès à ce sport. Parce que si on coupe dans les budgets, comment va-t-on pouvoir derrière faire du sport un vecteur de socialisation, de cohésion, de bien-être, de vivre ensemble, sans les infrastructures, sans les structures d'accueil, sans les formateurs qui permettent aujourd'hui à ce que le sport français brille et brille à échelle internationale et même nationale.
L'économiste Pierre Rondeau avec Lucas Caltritti. Qui pour occuper le perchoir? Les députés de La République En Marche, réunis jusqu'à demain soir en séminaire de rentrée à Tours, ils choisissent aujourd'hui leur candidat à la présidence de l'Assemblée nationale. L'actuel président du groupe La République En Marche, Richard Ferrand, part favori face à 3 autres députés En Marche, dont Barbara Pompili, ancienne d'Europe Écologie Les Verts. Une attaque au couteau hier soir à Paris. Un homme a blessé 7 personnes, dont 4 grièvement, sur les quais de Loire dans le 19e arrondissement. Il a été interpellé. Une enquête est ouverte pour tentative d'homicide volontaire. La piste terroriste n'est pas retenue à ce stade. Et puis en bref, encore plusieurs dizaines de gendarmes mobiles ont lancé ce matin une opération d'évacuation pour près de 200 zadistes à Strasbourg. Ils tentent de s'opposer au démarrage du chantier d'une rocade autoroutière autour de la ville en érigeant depuis quelques jours des barrages de bois et de pneus sur une route départementale. Il y a 3 ans éclatait le scandale du Dieselgate, ces moteurs diesel truffés d'un logiciel capable de fausser les résultats des tests anti-pollution. Eh bien aujourd'hui s'ouvre le premier procès contre Volkswagen en Allemagne. Est-ce que le processus de construction et de test a vraiment changé 3 ans après? C'est la question qu'a posée Fabien Cazeux à Bernard Julian. Il est directeur de GERPISA, le groupe de recherche internationale sur l'automobile.
Il y a bien sûr des leçons qui ont été tirées par les constructeurs, hein, d'abord parce qu'ils ont été obligés d'être beaucoup plus vigilants sur les motorisations qu'ils proposaient. Donc ils ont assez rapidement modifié à la fois les dispositifs de dépollution dans un premier temps et les moteurs dans un second temps. Et puis je dirais qu'il y a surtout eu des conséquences qui ont été tirées par le marché, hein, et qui ont amené les constructeurs à cesser de s'acharner à défendre le diesel en considérant que le marché et le politique et les pouvoirs publics et l'opinion publique avaient décidé à leur place d'une certaine manière. Donc ça se traduit aujourd'hui par des orientations de long terme qui rayent presque le diesel de la carte. Même chez les Français, on a clairement tourné la page.
L'Allemagne redoute un nouveau Chemnitz et de nouvelles manifestations à répétition de l'extrême droite contre les étrangers. 2 semaines après les premiers faits, c'est la petite ville de Köthen dans la région voisine de Saxe-Anhalt qui a connu hier un premier défilé. Et ce, après la mort d'un jeune Allemand lors d'une bagarre avec 2 Afghans notamment. Près de 2500 personnes ont ainsi participé à un rassemblement à l'appel de l'extrême droite hier soir. Les sociodémocrates suédois limitent les dégâts. Il reste le plus grand parti de Suède après les législatives d'hier en obtenant 40,6% des voix. Mais juste derrière, l'alliance de droite est créditée, elle, de 40,3%. Troisième, l'extrême droite qui fait une percée historique mais moins importante que prévu. Percée avec 17,6% des suffrages. Et pour contrer l'extrême droite à l'Assemblée, le Premier ministre suédois social-démocrate appelle depuis hier soir à une collaboration entre les 2 blocs de centre-gauche et de centre-droit. A-t-on surestimé la poussée populiste? Élément de réponse dans 10 grosses minutes avec Xavier Martinet et ses enjeux internationaux. Avant cela, revenons sur une rencontre attendue, celle du président serbe au Kosovo, une visite attendue. C'était ce week-end dans le cadre des négociations sur le statut final du Kosovo. Mais cette visite a été légèrement chamboulée, Laurent Rouet.
Après le refus des présidents serbes Aleksandar Vučić et kosovar Hashim Tači de se rencontrer vendredi dernier à Bruxelles pour les négociations sur le Kosovo, le président serbe devait s'attendre à des complications pour sa visite ce week-end des communes kosovares serbes. D'abord, la visite a été bloquée par Pristina et n'a eu lieu qu'après une intervention européenne. Sur place, des anciens combattants de l'armée de libération du Kosovo ont empêché Vučić de se rendre dans un village multiethnique à l'aide de barricades enflammées. Revenu dans la partie serbe de la grande ville de Mitrovica, Vučić a annoncé un revirement à 180 degrés de sa stratégie de négociation. Le président serbe a ainsi présenté comme un mensonge le fait que la Serbie demande un échange de territoire entre les 2 pays. Il a dit vouloir obtenir le maximum pour que les Serbes du Kosovo aient droit au travail, à la liberté de mouvement, à la santé et à l'éducation. Alors que cet été, et Belgrade et Pristina évoquaient un possible échange de territoire comme élément d'une résolution entre les 2 pays, cette éventualité ne semble plus être d'actualité dans l'esprit des 2 présidents.
Laurent Rouet depuis Belgrade pour France Culture. La Fondation pour la Recherche Médicale lance un appel aux dons à partir d'aujourd'hui et pendant tout le mois de septembre en France. Appel pour lutter contre la maladie d'Alzheimer. 900 000 personnes en souffrent dans le pays. Une maladie neurodégénérative dont les effets sont irréversibles. Mais les chercheurs tentent de mieux l'appréhender, Mariam El Kurdi.
On ne peut pas guérir d'Alzheimer aujourd'hui, mais on peut faire avancer la recherche pour mieux traiter la maladie. C'est le message de la Fondation pour la Recherche Médicale. Denis Lesquer, président du directoire de l'organisation.
Ce qui est important, en fait, c'est de comprendre les mécanismes de la maladie. Et c'est ce qui permettra d'imaginer, dans un second temps, où est-ce qu'on doit agir.
Et la recherche sur Alzheimer a déjà fait d'énormes pas en 10 ans, selon Philippe Amouyel, professeur de santé publique au Centre hospitalier universitaire de Lille.
Lorsque l'on diagnostique la maladie chez un patient, en fait, cette maladie a déjà évolué depuis 20 ou 30 ans. Donc la première conclusion de ces recherches, c'est qu'aujourd'hui, si on traite la maladie, il faut la traiter avant cette apparition des premiers symptômes. Ce qui d'ailleurs ouvre des voies également dans le domaine de la prévention. On s'est rendu compte qu'il était possible de repousser l'âge de début de la maladie d'Alzheimer. C'est-à-dire au lieu de la faire à 75 ans, on va la faire à 80 ou 85 ans.
Parmi les facteurs qui aident à repousser l'âge de la maladie, l'éducation, la stimulation du cerveau, pratiquer des activités nouvelles, une bonne hygiène de vie... Mais pas seulement.
Les relations avec les autres. Être optimiste, voir ses amis, avoir des relations sociales très riches est un élément également qui stimule le cerveau et lui permet de résister plus longtemps à la maladie.
Et la recherche sur Alzheimer est loin d'être aboutie. Quelques pistes sérieuses sont aujourd'hui à l'étude.
On s'est rendu compte que notre système immunitaire qui nous aide à nous défendre contre les maladies, qui sont la plupart du temps des maladies infectieuses, intervient aussi dans la lutte contre la maladie d'Alzheimer. Donc cette découverte est intéressante parce que l'on pourrait développer de nouveaux traitements à partir de ce qu'on appelle l'immunité.
La Fondation sur la recherche médicale alerte sur l'urgence à faire avancer les travaux sur Alzheimer. Selon l'organisation, un quart des Français de plus de 65 ans devraient être touchés par la maladie en 2020.
Excepté quelques nuages sur la pointe bretonne ce matin, il va faire beau aujourd'hui lundi avec 18 degrés ce matin à Rennes, Lille et Paris, 21 à Strasbourg, 25 à Lyon et déjà 27 degrés ce matin à Nice.